J'ai un aveu à vous faire. Après des années de résistance, nous avons succombé aux séries télévisées et nous nous sommes abonnés à Netflix. Et pour un mois, et ça tombe bien, le premier mois est gratuit. Et donc le Hollandais que je suis est très satisfait par... Mais on sent que le piège se referme quand même sur nous avec ces séries télévisées. Alors, je ne vais pas vous dire quelle série j'ai regardée déjà sur Netflix, mais j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de vraiment bien, c'est qu'avant chaque épisode, il y avait le résumé en quelques images et en quelques dialogues sélectionnés, le résumé de l'épisode précédent pour se remémorer l'histoire, parce que quand on regarde, je sais que vous regardez toute la nuit les 10 épisodes, surtout les jeunes, et quelques adultes aussi, je crois. Si on regarde un épisode par semaine, on a besoin de se souvenir de quoi il s'agissait. J'ai vu aussi qu'il y avait une bande-annonce pour l'épisode suivant, à la fin de l'épisode. Et ça, j'aime moins parce qu'on sait déjà ce qui va se passer. Bon, bref, on n'est pas dans Netflix ici, mais on fait une série quand même sur l'épître de Paul aux Colossiens. Une série biblique, d'un livre biblique absolument fascinant. Et on ne recule devant aucun sacrifice, je vous fais gratuitement le résumé des épisodes précédents. Donc la série porte sur cette lettre que l'apôtre Paul écrit aux chrétiens qui sont à Colosse. Colosse, c'est une église en Asie mineure, c'est une ville en Asie mineure, c'est-à-dire dans la Turquie actuelle, mais du côté asiate, comme on dit, du côté de l'Asie, pas Istanbul, de l'autre côté. Et il y a là une petite communauté, tout près de la ville la plus proche, c'est Laodicée, donc il y a quelques églises là. Et Paul écrit aux Colossiens, aux chrétiens de la ville de Colosse, sans les connaître, parce qu'il n'a pas implanté cette église, et il a implanté pas mal d'églises, l'apôtre Paul, mais pas celle de Colosse, c'est son ami Épaphras qui a implanté l'église de Colosse. On pense qu'Épaphras a été à l'institut biblique d'Éphèse dans lequel était Paul comme professeur. Pendant 2 ans il était à Éphèse et il a enseigné, et Épaphras était un de ses élèves, il a implanté l'église de Colosse. Donc Paul ne connaît pas les chrétiens de Colosse, mais il va leur faire dans les premiers chapitres, leur faire et nous faire un petit cours, et nous l'avons vu en mars, avril je crois, un petit cours ou un exposé sur la théologie positionnelle. Alors, c'est quoi la théologie positionnelle ? C'est que Paul insiste pour dire qu'en Jésus-Christ, celui qui accepte Jésus-Christ dans sa vie, celui qui se place en lui, eh bien, se trouve bien positionné. Il est libéré avec lui, il est sauvé, il est délivré, il est ressuscité avec lui. En lui, il est déclaré enfant de Dieu. Il a une nouvelle identité en lui. Avec ce verset 10 du chapitre 2, où il est dit « Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ ». En Jésus-Christ, on est bien positionné pour la vie. Toute notre valeur est en lui. On a en lui tout le pardon, l'espérance, l'amour dont il nous faut pour vivre bien positionné en Christ. C'est la théologie positionnelle, importante. Et puis au chapitre 3, il y a le grand virage. Parce que vous êtes bien positionnés en Christ, Paul invite les chrétiens de l'église de Colosse et les chrétiens de l'église de Cannes à rechercher les choses d'en haut, à tendre vers ce qui est en haut, là où est leur position, ressuscité avec Christ. Alors, tendre vers les choses d'en haut, ça ne veut pas dire qu'il faut devenir un doux rêveur, mais cela veut dire que, puisque notre position et notre identité est bien établie en Christ Jésus, alors ça va avoir des répercussions dans notre quotidien. Et vous pouvez alors, nous pouvons en tant que chrétiens, changer, vous voyez les starting blocks, bien en position dans les starting blocks, on peut se lancer et on peut changer notre garde-robe. Vous vous en souvenez, chapitre 3, changer notre garde-robe, la garde-robe de nos comportements. Parce que nous sommes positionnés en Christ, nous allons pouvoir être des personnes différentes ou renouvelées dans leurs relations et dans leurs comportements avec les autres. Et puis, on pourra chanter aussi un chant nouveau dans l'Église. Vous vous souvenez? Eh bien, chantez maintenant un chant nouveau avec la parole de Dieu au centre. Et puis, Paul va continuer au chapitre 4, mais avec avec un ton un peu différent. Parce qu'au chapitre 4, il va commencer à prendre congé. Il va dire au revoir à ses lecteurs, parce que c'est la fin de la lettre, mais aussi parce qu'il se sent ou sent qu'il termine sa vie. Avec Philippiens et Éphésiens, Colossiens fait partie de ces lettres que l'on nomme les lettres de la captivité de Paul, qui est à Rome. Et il ne va pas s'en sortir de sa prison de Rome. Il va y perdre la vie. Et donc, Paul s'en va. Et quand on s'en va, on rappelle à ceux que l'on aime, même si on ne les a jamais vus, il aime les chrétiens de l'église de Colosse, il va leur rappeler ce qui est essentiel et ce qui pour lui est une urgence. Comme quand on se sépare de son enfant pour sa première colo, on lui dit les choses importantes, essentielles. N'oublie pas de mettre ta pommade, n'oublie pas tes médicaments si tu en as, n'oublie pas de mettre ton bonnet et ta cagoule s'il fait froid. Ou sur le quai d'une gare, avant de partir, quelques communications urgentes. Sur le quai d'une gare, regardez cette photo comme elle est belle, c'est la Première Guerre mondiale et elles sont là comme suspendues, et communication entre guillemets, parce que là, il s'agit d'un bisou d'adieu, mais il y a des choses urgentes à dire quand on s'en va. Et pour Paul, dans sa lettre aux Colossiens, l'urgence se situe autre part, elle se situe, devinez où, au niveau de la prière. Et on lit dans Colossiens 4, tout à l'heure à un ami, j'ai dit Colossiens 3, mais c'est Colossiens 4, voilà, je le lis avec vous, oui. Persévérez dans la prière, nous dit Paul, inspiré par l'Esprit de Dieu. Soyez vigilants dans ce domaine, plein de reconnaissance envers Dieu. Lorsque vous priez, intercédez en même temps pour nous, afin que Dieu nous donne des occasions d'annoncer sa parole, de proclamer le secret de son plan qui concerne le Christ. C'est à cause de ce message que je suis en prison. Et donc j'ai trouvé ce titre, je ne sais pas si vous en êtes aperçu, mais j'aime bien les titres. La prière en état d'urgence. Il y a un théologien du 19e siècle, je pense, qui s'appelait Alexandre Vinet, théologien suisse, qui a dit une phrase qui est restée célèbre. Il a dit que la prière était la respiration de l'âme. Et avec cette phrase en tête, je me dis que Paul a donc dit aux Colossiens, au chapitre 4, « Eh les amis, n'oubliez pas de respirer !» Parce que l'apnée, c'est bien pour le sport, mais ça ne peut pas durer. N'oubliez pas de respirer, parce que c'est vital, c'est urgent. Et on peut encore penser à cette maman qui dit à son enfant qui a parfois des crises d'asthme, avant qu'il parte en colo, n'oublie pas ton puff de Ventoline pour respirer, parce que c'est urgent, parce que c'est vital. La prière en état d'urgence, vous avez remarqué que j'ai mis un S en état, après état, parce qu'il y a dans ces versets plusieurs états d'urgence que Paul veut souligner aux Colossiens, pour qu'ils saisissent toute l'urgence de la question de la prière. Et le premier état d'urgence, c'est la persévérance. Avant de vous quitter, je voudrais vous dire une chose, dit Paul aux Colossiens et aux Canois et alentour. Persévérez dans la prière. Une autre version de la Bible, la Tob, dit « Tenez-vous à la prière, accrochez-vous à la prière ». Et elle fait bien parce que le terme grec désigne vraiment un accrochage solide, un petit peu comme un pitbull qui s'accroche à votre, enfin je l'espère pas, mais à votre manche. Il s'accroche. Il y a l'idée de force et il y a l'idée de durée. Comme le pitbull, il reste accroché longtemps. Et il faut parfois y aller, enfin, je ne sais pas comment il faut faire pour le pitbull, mais... Et donc, on pourrait dire, attachez-vous fortement et durablement à la prière. C'est ça, la persévérance. Fortement et durablement à la prière. Alors quand on voit ce mot persévérer, et surtout dans la prière, on pourrait se sentir découragé parce qu'on n'est pas, on se sent pas, on se sait pas très persévérant. Mais moi, ce mot persévérer, moi, ça m'encourage, il me rassure. Parce que je trouve plutôt rassurant de voir que dans la Bible, que dans le Nouveau Testament, dès qu'on parle de prière, on parle aussi de persévérance. Romains 12:12, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans la tribulation, persévérez dans la prière. Et cette insistance sur la persévérance en relation avec la prière, ça me rassure parce qu'elle indique que la prière reste quelque chose de difficile pour tout le monde. Si tout allait de soi dans la prière, les auteurs du Nouveau Testament inspirés, j'aime bien le répéter, ne passeraient pas leur temps à lancer des appels à la persévérance. Si les auteurs du Nouveau Testament insistent là-dessus, c'est bien parce que la prière, justement, ne nous est pas naturelle, facile, elle reste pour beaucoup, peut-être pas pour vous, mais pour moi en tout cas, un combat de tous les jours avec parfois au bout du combat la défaite, l'abandon des positions, la désertion, le recul, la déroute. Alors on pourrait se poser la question de savoir pourquoi est-ce difficile? Pourquoi y a-t-il tant d'abandon dans le Tour de France de la prière, ou même la Vuelta ou le Giro? Pourquoi est-ce une urgence en détresse? C'est un état d'urgence, mais on est un peu en détresse. Alors, il y a des responsables chrétiens qui se sont rassemblés pour débattre de cette question, et ils ont tenté de rassembler les réponses, et celle qui revenait le plus souvent était celle-ci. Pourquoi la prière est-elle difficile? Et quelqu'un a répondu, « Je suis trop occupé pour prier, je n'ai pas le temps. » Ce à quoi d'ailleurs un pasteur a écrit un livre. Au lieu de dire « trop occupé pour prier », il a ajouté « trop occupé pour ne pas prier ». Il y a tellement de choses à faire dans la vie, il y a tellement de défis à relever, de décisions à prendre, qu'il faudrait être fou pour s'abstenir de la prière. J'ai trouvé ça bon, moi qui aime les titres. « Trop occupé pour ne pas prier ». L'autre réponse était « je suis trop fatigué pour prier, j'arrive pas à me concentrer ». Je ne parviens pas à trouver un endroit ou un moment calme. Il y a tant de domaines où il faut se discipliner, la prière n'est pas une priorité. Ça, c'était les réponses à la détresse de l'urgence de la prière. Mais il y a une dernière personne qui a dit autre chose. Si nous ne prions pas, ou si nous avons du mal à persévérer dans la prière, c'est peut-être parce qu'au fond de nous, on se demande si la prière fonctionne vraiment. Et il me semble que cette personne mettait le doigt sur peut-être la véritable raison de notre manque de persévérance dans la prière, un doute énorme quant à son efficacité. Et on a tous en tête des expériences où nous avons prié et nous n'avons pas eu de réponse, du moins pas celle que l'on attendait. Prier pour un malade qui n'a pas guéri, pour un travail qui n'est pas venu, pour un succès qui tarde à se réaliser. J'avais prié pourtant, j'avais réuni toutes les conditions pour un exaucement rapide et précis. Il y avait un besoin, j'avais la foi, j'ai mis des amis dans le coup, c'était pour la gloire de Dieu, j'en suis sûr. Et puis rien ou pas grand-chose. Ça vous dit quelque chose ce que je dis? Et ça laisse, ce genre de choses, d'expérience, ça laisse des traces dans notre vie de prière. Et ça laisse surtout un vide, la prière, dans notre vie. Un vide dans notre vie de prière. Mais quand on vit ces expériences-là, faut-il abandonner la prière pour autant? Faut-il alors laisser la prière aux spécialistes qui ont un taux d'exaucement supérieur à la moyenne? À ma moyenne, en tout cas. Et on serait tenté de le faire, mais non. La Bible nous invite, Dieu, dans sa parole, nous invite à persévérer dans la prière et justement de ne pas abandonner notre vie de prière. Par contre, ce qu'il faudrait abandonner, c'est une conception, une certaine conception de la prière. Celle qui consiste à voir ou à vivre la prière comme un bon de commande adressé à Dieu. « Voilà ma commande, Seigneur, j'espère que tu vas l'honorer. » Et évidemment, dans cette conception-là, si la commande, si les commandes n'arrivent pas, on arrête de commander. On change de fournisseur. Et on s'adresse à soi-même, selon l'adage bien connu, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. On abandonne la prière et on va s'occuper de sa propre vie. Mais comme me disait quelqu'un dans un groupe de maisons quelque part en Europe, je dis ça quand je parle de la Belgique, la prière n'est pas un moyen d'infléchir la volonté de Dieu, mais un moyen d'entrer dans sa volonté et de rentrer dans la présence même de Dieu. Et c'est dans ce sens-là que la prière est véritablement la respiration de l'âme. Et ce qui est vital pour tout chrétien, ce n'est pas cette relation du donnant-donnant, je te donne mes prières, tu me donnes tes réponses, mais ce qui est vital, c'est le dialogue, c'est la communication, la communion avec le Dieu de la vie qui permet à mon âme de respirer. Et c'est pour ça qu'il faut persévérer dans la vie de prière, tout simplement pour respirer et pour être rafraîchi de cette communion que nous pouvons avoir avec Dieu. On ne peut pas passer à côté de la respiration de l'âme. On peut rater quelques commandes, mais on ne peut pas arrêter de respirer. Alors, pour ne pas manquer d'air en fin de parcours, il nous faut peut-être réentendre cet appel urgent, ou l'urgence de l'appel de Paul à la prière, persévérer dans la prière. Et on pourrait prendre ce matin la décision de devenir ou de redevenir, des hommes et des femmes de prière. Et je vous livre quelques petites idées comme ça, des décisions pratiques, parce que parfois les grandes choses, les grandes décisions, c'est par des petites décisions pratiques qu'on arrive à les réaliser. Pour persévérer dans la prière, peut-être prendre un temps dans la journée pour la prière qui serait toujours le même, pour ceux qui ont l'impression d'être toujours dispersés, toujours trop occupés, toujours le même, et peut-être même un endroit particulier qui serait toujours le même pour pouvoir prier. Commencer par prier aussi courtement, la Bible le dit, de ne pas mépriser les petits commencements. Il ne faut pas se dire, je vais prier pendant une heure, non, 30 secondes, au début. On peut aussi peut-être, si votre famille est chrétienne, relancer la prière avant le repas. C'est court, mais c'est un moment de prière. On peut prier avec les enfants. On peut aussi, si vous avez les pensées qui divaguent, qui voyagent, on peut écrire ces prières. On peut aussi prier en petit groupe, en duo, en trio, en quatuor, en quintette, en sextette, je sais plus après, ou dans les groupes de maison qui vont commencer septembre-octobre, je ne sais pas, sont aussi des lieux de prière. Et puis, on peut aussi, si on commence peut-être à se dessécher dans sa vie de prière, on peut aussi prier les psaumes ou prier plus largement les prières d'autres personnes. Il y a des recueils de prières, peut-être les pères de l'Église, 2e, 3e, 4e, 5e siècle, et même après, des gens qui ont écrit des belles prières que l'on peut investir, que l'on peut lire et dire à Dieu. Parfois, moi, je me sens, je suis fatigué par mes propres mots et mes propres formules. Et ça me fait du bien de lire, de m'approprier les prières écrites par d'autres et de les dire à Dieu. Et si je perds un peu en spontanéité, il me semble que je gagne en profondeur. Voilà quelques conseils, mais que ce soit en groupe, tout seul, la position, l'environnement, le nombre de personnes, l'important c'est de prier et de persévérer. Et on pourrait dire qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse de la prière, la respiration. Persévérance. Et puis le deuxième état d'urgence, c'est la vigilance. Paul invite les Colossiens à retrouver cette vigilance dans la prière. Soyez vigilants dans ce domaine. Et le mot vigilance est un mot qui revient souvent avec prière. Comme dans le jardin de Gethsémané, Jésus retrouve ses disciples qu'il trouve endormis et il leur dit « veillez et priez ». Et vigilance et prière, il faut un petit peu voir comment ça s'articule, vigilance et prière. On pourrait penser d'abord au fait que quand on prie, il faut être réveillé, il ne faut pas dormir. comme les disciples dans le jardin de Gethsémané, qui ne sont pas capables de rester éveillés pour prier avec Jésus. Malgré l'urgence, malgré le sérieux de la situation, ils ont les paupières lourdes. Ils dorment au lieu de prier. Et on a tous, enfin moi j'ai l'expérience encore en Belgique, d'une réunion de prière, après le repas du soir, il était 9h, on commence la prière et on entend un ronflement doux et paisible de notre ami Franco, italien, et qui ronflait paisiblement. On a envie de dire, écoute, dormir ou prier, il faut choisir. Mais je ne pense pas que la vigilance est un rapport avec cette veille. Quand on a sommeil, et il faut dormir. Quand il est question de vigilance dans la prière, on peut y voir deux articulations, et les différentes versions de la Bible se font les témoins l'une de l'autre. La Semeur, par exemple, traduit, on l'a lu tout à l'heure, « Soyez vigilants dans ce domaine ». Dans quel domaine ? Dans le domaine de la prière. Il s'agit donc de surveiller notre vie de prière, comme on vérifie un peu, avant de partir en voyage, le niveau d'huile dans la voiture. Et Paul nous invite, et c'est urgent, docteur, à ne pas nous laisser embarquer dans ce long voyage qu'est la vie, sans avoir vérifié notre niveau de prière. Faites attention, nous dit Paul, surveillez-vous, restez en sentinelle sur votre vie de prière, et de temps en temps, il faut se poser la question, est-ce que je respire encore ? Il faut vérifier son niveau de prière et de communion avant que les témoins rouges s'allument sur le tableau de bord. Ça fait toujours un effet bœuf de voir ce voyant rouge qui s'allume alors que vous êtes sur l'autoroute à 130. J'ai un pasteur qui me racontait un jour que son témoin rouge s'est allumé. Il était en vacances, c'est un pasteur américain, une grosse église, etc. Mais il était sur les rotules, et il était dans un camping ou une résidence avec une piscine où tous les résidents pouvaient. Mais comme partout dans les campings ou dans les résidences, il manque de chaises longues. Il n'y en a pas assez, des transats autour de la piscine. Et donc il vient la première fois, il voit que tous les transats sont occupés, etc. Puis il vient la deuxième fois, il s'aperçoit qu'il y a des gens qui ont mis leurs serviettes pour réserver leurs transats. Et lui, donc la troisième fois, comme c'est pasteur intelligent, c'est pas toujours le cas, il met sa serviette aussi, quoi. Il est tout content, il a mis sa serviette, donc il sait que sa chaise longue va être réservée. Et il arrive, et il voit que quelqu'un a pris la serviette, l'a mise de côté, et il est sur sa chaise longue. Et le pasteur, a senti une grande colère monter en lui et des idées de meurtre pour une serviette et pour un transat. Et il n'en est pas venu aux mains, mais il est tout juste prêt à le faire. Et là, il s'est dit, là, c'est pas normal. Où en suis-je dans ma vie de prière et dans ma communion avec Dieu ? Et on a parfois dans notre vie des témoins comme l'agressivité, l'irritabilité ou pour d'autres le repli sur soi ou l'amertume qui sont des signes que la vie de prière n'est peut-être pas ce qu'elle pourrait être et qu'il faudrait refaire l'appoint. Rester vigilant sur sa respiration, je veux dire sur sa vie de prière. Et puis il y a un deuxième rapport possible entre la vigilance et la prière, qui voudrait que la prière soit le moyen par lequel on reste vigilant sur sa vie. Et la Nouvelle Bible Second traduit pour le même terme, par elle, veillez. Par la prière, veillez. La Tob traduit, tenez fermement à la prière qu'elle vous garde sur le qui-vive. Donc là, le premier c'était être vigilant sur sa vie de prière. L'autre sens, l'autre rapport, l'autre articulation, c'est rester vigilant par sa vie de prière. Rester vigilant sur sa vie, par sa vie de prière. Et rester vigilant par rapport à quoi ? Eh bien, Jésus répond à cette question dans le jardin de Gethsémané, et on n'a pas continué le verset tout à l'heure, quand il dit à ses disciples endormis, enfin qu'ils ne le sont plus maintenant, « Veillez et priez, il va continuer en disant « afin de ne pas tomber en tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible ». Et c'est par rapport à donc cette tentation, afin de ne pas entrer en tentation, que la prière nous permet de rester vigilants. Et la tentation, alors les tentations sont nombreuses, mais peut-être la tentation la plus tentante serait certainement pour nous de vouloir faire marche arrière. Et pour les Colossiens, c'était le cas. Du retour en arrière. En tant que chrétiens, nous avons cette nouvelle identité que nous voulons vivre en fonction, de cette nouvelle identité. Pardon, ben, ma phrase n'allait pas bien là. Et pour la vivre, cette nouvelle identité, on est plein de bonnes dispositions intérieures, on est prêt à changer notre garde-robe, on est prêt à chanter un cantique nouveau, on est prêt à mettre la parole de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ aussi, au centre de notre vie. Spirituellement, nous sommes bien disposés, mais la chair est faible. Mais il nous reste des traces de notre ancienne identité, de notre ancienne vie sans Dieu, et ça c'est la définition de la chair. Et il faut faire attention, chers amis, parce qu'on entend parfois les pensées charnelles, etc. Et on ne sait pas. Et moi, quand j'étais ado, je pensais tout de suite charnel, la chair, le corps. Et là, c'est du platonisme de penser que le corps est mauvais. Non, la chair, c'est notre ancienne manière de vivre sans Dieu. Et pour vous et moi qui sommes devenus chrétiens, cette période de vie sans Dieu a été plus ou moins longue. Mais c'est aussi une vie sans Dieu qu'on a héritée de nos parents et de nos grands-parents et de deux représentants de l'humanité, Adam et Ève, qui ont pris l'habitude ou qui ont, qui ont entraîné l'humanité dans cette habitude de laisser Dieu à l'extérieur de leur vie, de jouer à cache-cache avec Dieu dans le jardin, de se prendre pour Dieu à la place de Dieu. Nous avons hérité de cette vaine manière de vivre de nos parents et nous la reproduisons dans notre vie aujourd'hui. Elle est là et elle trace en nous des sillons, des habitudes, des schémas dans lesquels nous replongeons. Et la tentation est de retomber, malgré notre nouvelle identité en Christ, dans ces schémas-là, dans ces mécanismes, dans ces habitudes de comportement, dans ces comme l'égocentrisme, la colère, l'agressivité, la jalousie, l'amertume. On a une nouvelle identité en Christ, mais la tentation est de revenir et de replonger dans ces sillons qui sont tracés quelque part. Et il est facile de retomber dans ces schémas, il suffit, devinez quoi, de ne rien faire. Il suffit de sombrer dans une sorte d'assoupissement spirituel. Mais le meilleur moyen de rester vigilant dans ce domaine, par rapport à ce retour en arrière possible, c'est la prière. Par la prière, soyons vigilants, c'est elle qui nous permet de rester en alerte, de rester sensibles aux petites tentations de la journée ou nos glissements vers l'égoïsme, vers la colère, vers l'amertume, vers le manque de pardon. Et si la prière nous permet de rester vigilants, c'est parce que la prière, on ne peut pas tricher avec la prière. J'explique avec une petite histoire. Vrai, vous savez, et je vous ai déjà dit que ça nous arrivait, Yvonne et moi, mon épouse et moi-même, de nous disputer une fois tous les 10 ans à peu près. Comment est-ce possible de se disputer avec Yvonne, mon adorable femme ? J'en sais rien. La chair est faible. L'esprit est bien disposé, je parle du mien, mais ma chair, mon ancienne manière de vivre est faible. Mais je peux vous dire que, bon, ça fait 35 ans de mariage, donc on s'est disputé trois fois et demi, mais à chaque fois, à un moment ou un autre, après la dispute, je me suis retrouvé devant Dieu, dans la prière, et j'ai essayé souvent, mais je ne suis jamais parvenu à dire « Seigneur, pardonne à ma femme car elle a péché ». Je n'ai pas réussi dans la prière. Par contre, ce que je disais dans la prière, après un petit combat, « Seigneur, je te demande pardon, donne-moi d'aller me réconcilier avec Yvonne et d'aller lui demander pardon ». On a du mal à tricher avec la prière quand on se place devant le Dieu qui sait tout et qui voit tout. La prière nous permet de rester vigilants sur notre vie. Quand on veut tricher, on ne prie pas, mais quand on prie, quand on se place devant le juste juge qui sonde et connaît les cœurs, on devient sensible à l'égard de sa propre personne et de sa responsabilité. Quand on prie, notre sens spirituel se met en alerte, on se réveille de sa torpeur spirituelle. C'est en elle que l'on peut retrouver sa vigilance, c'est elle qui nous permet de rester sur le qui-vive spirituellement. Vous savez que pour répondre, non, vous ne savez pas, mais à cet appel urgent à la prière, il y a des hommes et des femmes qui, de France, de Suisse et de Belgique qui font partie de ce qu'on appelle la fraternité des veilleurs. Et cette fraternité a été lancée par les frères Monod. Ils sont bien connus, la famille Monod, une famille de pasteurs, en 1923. Ils sont 200 à 300 aujourd'hui en France, Belgique, Suisse, donc c'est la francophonie. Ils habitent des villes différentes, ils ont des occupations différentes, mais ils se sont engagés à prier avec persévérance. Ils veillent et ils prient. Ils veillent sur leur vie de prière et ils veillent en priant. Il y en avait un dans l'église d'Orléans que nous avons servi pendant quelques années. Et je l'ai su que quelques années après notre arrivée à Orléans, et il m'a dit qu'il priait en fait pour nous depuis 3 ans déjà, que toute la fraternité des prieurs priait pour nous. Waouh ! Et ça m'a fait un bien fou, une bouffée d'oxygène spirituel. Et je me dis que c'est bien qu'il y ait ces veilleurs. Mais c'est bien aussi qu'il y ait des gens comme vous et moi qui restent vigilants dans la prière. Vous savez, quand Paul s'adresse aux Colossiens, aux membres de l'église de Colosse, il s'adresse avant tout à des gens normaux, à des employeurs, à des employés, à des couples, à des gens seuls, à des parents, à des enfants, aux prises avec la vie et tout ce qu'elle comporte comme pesanteur et comme tentation. Les Colossiens sont des gens normaux et nous sommes des gens normaux. Et cet appel... nous devons aussi recevoir cet appel. Et c'est à des gens normaux comme nous qui lancent cet appel urgent à la persévérance et à la vigilance dans et par la prière. Il y a un prédicateur qui disait, et j'aime beaucoup ça, « À un moment, je parlais plus de la prière que je ne la pratiquais. » Ça pourrait être moi, ça. Et un jour, j'ai fait quelque chose de tout à fait radical. Deux points. J'ai prié. Et si pour la rentrée, nous faisions quelque chose de tout à fait radical pour cette rentrée d'église, pour cette saison 2019-2020, si nous nous mettions à prier, à devenir veilleurs, c'est tout le mal que je vous souhaite. Et nous, pour prier. Que le Seigneur bénisse la prédication de sa parole. Amen.